Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur, mesdames. D'abord, je voudrais présenter mes excuses de la part du professeur Alfonso Delgado, qui n'a pas pu venir à cause de quelques problèmes familiaux de dernière heure. Donc, je suis venue à sa place. Je suis mademoiselle Leire Madariaga. Je sais que mon nom, c'est parfois un peu dur à dire en français. Et je vais parler sur la migration et l'assistance pédiatrique en Espagne. Bon, comme vous savez, l'Espagne a été dans le passé un pays nettement émetteur des émigrés. Mais dans l'espace d'un dizaine d'années, l'extraordinaire dynamisme de l'économie a donné lieu à une forte croissance de l'immigration espagnole, de l'immigration étrangère. C'était surtout à partir de 1973, avec la crise du pétrole, que l'immigration espagnole vers l'étranger a cessé d'être importante et le retour d'un grand nombre des immigrés espagnols et ses descendants s'est produit en raison de l'augmentation du chômage qui affectait les pays qui les accueillaient en Europe. Bon, comme on peut voir, en 1981, le nombre des étrangers recensés en Espagne fut de 200 000 à peu près, c'est-à-dire 0,52% de la population étrangère. Tandis qu'en 2007, il fut pratiquement de 4,5 millions, soit 10% de la population légalement recensée. Par ailleurs, il existe maintenant près d'un million et des milliers d'étrangers en plus, non recensés et vivant en situation irrégulière, bénéficiant également gratuitement de l'assistance sanitaire à travers le système national de santé, conformément au décret royal de 8 septembre 1999. Cet décret stipule que les émigrés sans ressources économiques suffisantes ont droit à la carte de santé et à tout type d'assistance médicale de la même manière que les Espagnols. Bon, depuis l'année 2000, l'Espagne présente l'un des taux d'immigration le plus élevé du monde. Après les États-Unis, l'Espagne a été le deuxième pays du monde à recevoir en nombre absolu le plus grand nombre des immigrés. Comme on peut voir, ça c'est une nouvelle apparue dans un journal important en Espagne, El País. Il disait il y a quelques mois que l'Espagne c'était le pays du monde à recevoir en nombre absolu le plus grand nombre des immigrés après les États-Unis. Ça, c'est à la fin la triste réalité de la migration en Espagne, de la migration qui vient surtout de l'Afrique, dans le petit bateau qu'on appelle en espagnol le cayucos. Et bon, contrairement à la France et à l'Allemagne, où il y a une claire prédominance de la migration des nationalités algériennes et turques, respectivement, bah, il faut dire que la migration en Espagne est multiraciale et multiculturelle. On peut voir plus de 36% de la migration provient de l'Amérique latine, surtout d'Équateur. 21% de la migration provient de l'Europe occidentale, 17% de l'Europe de l'Est, presque 15% de l'Afrique du Nord, 5% de l'Afrique du Sud et 4% de l'Extrême-Orient et du subcontinent indien. Et après, il y a quelques autres zones géographiques qui restent plus ou moins minoritaires. À la fin, les nationalités les plus fréquentes sont l'équatorienne, la marocaine, la roumaine, la britannique et la colombienne. Il faut ajouter que le 21% des émigrés provenant de l'Europe occidentale présentent des caractéristiques culturelles et sociologiques complètement différentes, car il s'agit de professionnels, de retraités et des entrepreneurs ayant un niveau économique et social élevé et qui ont décidé de vivre en Espagne pour son climat, son style de vie et des autres composants sociologiques. En définitive, ce n'est pas un collectif qui vient travailler pour améliorer sa qualité de vie, sinon une population qui a choisi volontairement l'Espagne pour vivre avec plénitude dans une situation socio-économique privilégiée dans la plupart des cas. Et bon, pour des raisons évidentes, la population immigrée étrangère se concentre dans les centres du pays à plus grand dynamisme économique, c'est-à-dire les régions à marron foncé, et c'est les régions qui exigent le plus grand besoin de main-d'œuvre. De ces faits, c'est la communauté de Madrid, la côte méditerranée et l'Espagne insulaire, Valère et Canadie, celles qui ont une plus grande proportion des immigrés. La moyenne nationale, c'est de 8,5%, mais c'est Alicante avec un secteur agriculture et touristique très développé, celui ayant les pourcentages les plus élevés, presque 20%. Il faut ajouter aussi que le 45% de recensés, un nombre absolu, se concentre dans les provinces de Madrid, de Barcelone et de Alicante. Bon, l'âge moyen de la population résidente en Espagne, selon le recensement de 2007, était de 40 ans. 41 pour les Espagnols et 32 ans pour les résidents étrangers. On peut voir dans cette image que la pyramide de la population étrangère recensée en Espagne en 2007 présente une claire hypertrophie dans la population âgée entre 25 et 40 ans, c'est-à-dire la population en âge de travailler, tandis que la pyramide de l'ensemble de la population espagnole souligne un profil clairement vieillissant. Et bon, le phénomène de la migration, de la croissance de la migration en Espagne évite à de multiples facteurs. Dans un premier temps, c'est la croissance notable de l'économie espagnole de ces dernières années, ce qui a généré un fort besoin de main-d'œuvre, en particulier pour des postes déterminés que les Espagnols tendaient à rejeter. Depuis 1995, il y a eu 6 régulations extraordinaires en Espagne des immigrés illégaux, ce qui a créé un effet d'appel et un flux des immigrés en situation plus ou moins irrégulière. Dans l'Espagne aussi, il y a un modèle de bienveillance, un peu comme le modèle français, ce qui permet le réagroupement familial et à moyen terme la nationalisation. En outre, la couverture médicale et la scolarisation sont aussi garanties de manière gratuite pour les étrangers résidant dans le pays, qu'ils soient ou non en situation régulière. L'identité culturelle et linguistique avec l'Hispanamérique aussi, d'où provient plus d'un tiers des immigrés, constitue un des attraits importants pour ces collectifs. Après la proximité géographique avec le continent africain, car il y a dans le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, il n'y a que 14 kilomètres. Aussi, le revenu per capita espagnol est plus ou moins 14 fois supérieur à celui du Maroc. Ça, c'est un de plus inégal en termes économiques, plus ou moins. Le revenu per capita des États-Unis, par exemple, est seulement 5 fois supérieur à celui du Mexique. Et finalement, la bonté du climat et les styles de vie qui représentent un autre facteur à la fin. Cela attire la plupart des 21% des immigrés qui proviennent de l'Europe, de l'Union européenne, ceux qui sont des immigrés de luxe, on peut dire, et qui vivent surtout aux Baléares, aux Canaries et dans la côte de Méditerranée. Bon. Les conséquences de l'immigration en Espagne, la plus forte taux de natalité dans les dernières années, a été celle de la population immigrée, qui a supposé en 2006 presque un 17% des naissances enregistrées en Espagne, bien que le mère étranger ne représente que le 8% de la population féminine en Espagne. Actuellement, 9,4% des enfants scolarisés sont étrangers et les 82% sont à l'école publique. Dans les écoles, le pourcentage des enfants immigrés est très variable selon les villes, et même dans chaque ville selon le quartier, j'imagine que comme ce serait en France. À la fin, la population immigrée âgée en 2007 entre 0 et 18 ans était entre 13 et 15%. Par conséquent, il y a presque 700 000 enfants et adolescents immigrés provenant de l'immigration régulière et irrégulière, y compris les mineurs non accompagnés. Et sur les aspects pédiatriques légaux de l'immigration en Espagne, c'est la loi organique du 11 janvier 2000 qui stipule entre autres que les étrangers âgés de moins de 18 ans se trouvant en Espagne auront droit à l'assistance sanitaire dans les mêmes conditions que les Espagnols, et aussi que les étrangers enceintes se trouvant en Espagne auront droit à l'assistance sanitaire durant leur grossesse, l'accouchement et le post-accouchement. Et un autre aspect de l'immigration pédiatrique en Espagne, c'est l'adoption internationale. Le volume des enfants qui provient de l'adoption internationale vient qu'est significatif dans le contexte international, car l'Espagne, c'est un des pays qui adopte le plus d'enfants, ne pas si significatif dans le contexte national. Ces tableaux montrent l'évolution des enfants adoptés en Espagne entre 1998 et 2005. Comme on peut observer, c'est seulement 10% des adoptions étaient nationales, tandis que 90% des adoptions étaient internationales, y compris 50% qui provenaient de la Chine. Et les mineurs non accompagnés représentent un autre groupe particulier des enfants immigrés. Il s'agit des enfants et adolescents de moins de 18 ans se trouvant dans les pays récepteurs sans la protection d'un membre de la famille ou d'un adulte responsable chargé habituellement de les prendre en charge, que ce soit légalement ou selon les usages et coutumes. En Espagne, le nombre de ces mineurs accompagnés a augmenté de manière significative depuis 1998, jusqu'à atteindre en 2006 le chiffre de 9 000, dont 75% provenaient du Maroc. Bon, et la santé de la population immigrée est conditionnée par une série de facteurs biologiques, surtout le changement du climat et les nouveaux pathogènes, socio-économiques, comme le niveau économique est faible dans la plupart des cas, la discrimination, le racisme et le changement de langue. Sanitaires, comme les barrières d'accès, les barrières d'utilisation au système sanitaire, et culturelles, surtout leur perception de la santé différente et la perception de la gravité de la santé. Pour des raisons évidentes, les pédiatres doivent respecter l'enfant immigré et sa famille. Il doit avoir le même comportement et la même attention qu'avec l'enfant national. Il est également possible qu'ils doivent réaliser un effort pour accroître l'empathie afin de surpasser les barrières culturelles, linguistiques, etc. Il doit donner aussi une réponse à leurs problèmes de santé physique, psychique et sociale afin de satisfaire leurs multiples besoins. C'est pour cela que les pédiatres doivent être disposés à acquérir les connaissances et les compétences spécifiques pour se mettre en rapport de la meilleure manière possible avec ses enfants et les membres de leur famille, afin d'éviter des erreurs de diagnostic, de connaître leur usage et coutume, de contrôler l'exécution de recommandations et des ordonnances, et de fournir les services de santé et sociaux dont ils ont besoin. Afin que nous, les pédiatres, puissions surpasser les aspects critiques de ces relations, nous proposons les points suivants. D'abord, avoir une attitude aimable et de l'empathie avec un langage corporel qui puisse faciliter le rapprochement. Utiliser une communication simple et clairement compréhensible. Solliciter la collaboration, lorsque cela est nécessaire, des médiateurs culturels ou des compatriotes plus expérimentés. On doit aussi connaître les principales habitudes de santé et les pathologies prédominantes dans les pays d'origine, ainsi que l'histoire des vaccinations, les niveaux de culture et d'intégration sociale. Il faut se constituer aussi un tuteur et protecteur de l'enfant et de la famille pour l'accès aux services de santé à des niveaux plus complexes. Rappelez aussi que fréquemment, les immigrés ne considèrent pas les mesures de prévention importantes et connaître les problèmes associés à des situations déterminées, comme par exemple le rituel culturel à des fins thérapeutiques. D'un point de vue pratique, plus pratique, le recueil de l'histoire clinique sera mené à bien à l'usage d'un interprète ou des manuels conçus pour cette finalité. Il reprendra les contextes socio-économiques d'origine et l'actuel, la provenance géographique, les antécédents personnels et familiaux, l'histoire de vaccination, l'information sur la grossesse, l'accouchement et la période périnatale. Il faut savoir que la provenance géographique du patient peut également orienter la prédominance accrue de certaines pathologies. Et dans l'exploration physique, on évaluera l'état nutritionnel et les situations de carence potentielle comme l'anémie, le rachitisme, etc. La croissance staturopondérale et les signes potentiels de maladies aiguës ou chroniques. Aussi, la présence de certaines découvertes peut nous révéler certaines pathologies, comme on montre dans ce tableau. Quand on cherche de laboratoire à réaliser sur les enfants immigrés, il faut éviter les explorations invasives et réaliser uniquement celles qui sont recommandées, après une histoire clinique complète et une exploration physique exhaustive. Habituellement, celles stipulées dans les tableaux s'avèrent suffisantes. Il faut savoir aussi que les parents des enfants adoptés tendent à solliciter toujours un grand nombre d'analyses pour écarter des possibles maladies qui normalement n'existent pas. Et bon, évidemment, bien que dans ce travail, on ne peut pas discuter en détail des multiples aspects socio-sanitaires qui se gèrent le problème de la migration en Espagne au niveau pédiatrique, il est important de rappeler que chaque culture possède des valeurs, des convictions et des coutumes et des styles de vie propres, caractéristiques, qu'on doit respecter. Aussi que les connaissances, les croyances et les philosophies qui constituent la base des systèmes de guérison de chaque culture sont aussi très différentes, et que les conseils de la vie, de leur santé et la maladie sont différents selon les terrains ethnie et culture. Et que parfois, nous, les pédiatres, on possède de forts conditionnements culturels, pas toujours scientifiques et souvent peu critiques et peu flexibles. Cependant, sans aucune doute, une meilleure connaissance multiculturelle permet de la cohabitation dans ce monde globalisé. Merci beaucoup pour votre attention. Très bien.